Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au micro, Jérôme Longuet pour ce magazine Escale. Près d'une décennie après le jour où Dieu est parti en voyage consacré au génocide rwandais, le réalisateur belge Philippe Vanleu nous plonge au cœur de la guerre en Syrie. Son nouveau film, Une famille syrienne, est un huis clos oppressant d'une famille cloîtrée dans un appartement de Damas, un quotidien à l'épreuve des pénuries, des tirs de snipers, du bruit assourdissant des bombes et des miliciens qui rôdent dans une ville à l'abandon. Karim Djinko a rencontré le réalisateur Philippe Vanleu de passage à New York où le film était présenté.
Philippe Vanleu, bonjour.
Bonjour.
Votre dernier film plonge au cœur du quotidien d'une famille syrienne, un huis clos de 24 heures où elle essaie tant bien que mal à survivre à la guerre, aux snipers, aux bombes. Pourquoi avoir choisi de montrer ce quotidien de cette famille avant l'exil ?
Parce qu'en fait, ce qui se passait au moment où je me suis embarqué là-dedans, c'est que j'étais comme tout le monde, je regardais la télévision, je voyais des images qui sont celles qu'on voit habituellement d'un conflit, c'est-à-dire des explosions sur une place de marché, des combats de rue, des choses comme ça, mais on ne voit pas ce qui se passe dans les immeubles, on ne voit pas ce qui se passe pour les gens qui sont cachés là à l'intérieur et qui n'ont pas d'autre choix que de rester là, en réalité. Parce que quand la situation est aussi à vif, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de fuite possible en réalité. Donc la seule chose que les gens font, c'est bon, ils descendent aux abris quand il y en a. Enfin, en Syrie, la plupart des immeubles sont des immeubles sans fondation. Donc je pense qu'au début, les gens descendent sous les escaliers. Mais après, comme ils sont quand même exposés à tout ce qui peut surgir de gauche ou de droite, et bon, on fait des rencontres malheureuses à ce moment-là. Donc je crois qu'au final, les gens finissent par rester chez eux. Peut-être pas dans les étages les plus élevés. Et ils attendent. Ils ne savent pas ce qui va se passer, ça peut leur tomber dessus à n'importe quel moment.
Est-ce une volonté aussi de donner une dimension humaine à ce conflit ?
Ah oui, tout à fait. Le principe pour moi n'est absolument pas d'aller chercher à expliquer le conflit lui-même, de lui donner un contour, qu'on va dire, géopolitique ou historique. Mon propos est vraiment l'humain. Qu'est-ce qui se passe pour des gens ordinaires quand ils sont placés dans des circonstances extraordinaires comme celle-là et dramatiques ? Et en réalité, c'est ça qui m'intéresse parce que je pense que c'est un questionnement que j'ai depuis longtemps. J'ai quand même grandi après la Deuxième Guerre mondiale et j'ai quand même entendu mes parents, mes grands-parents parler assez régulièrement. Et donc, si vous voulez, cette notion de la guerre que je n'ai jamais vécue est quelque chose, tant mieux d'ailleurs, quelque chose qu'on finit par fantasmer d'une certaine manière. Donc essayer de lui donner des contours authentiques et essayer de rejoindre ceux pour qui c'est une véritable réalité, un drame, ça me paraît vraiment important.
Dans le film, on ne sait pas qui tire, on ne connaît pas l'allégeance de cette famille, ni même sa religion. Est-ce une façon de dépouiller le discours pour qu'on s'attache juste à la dimension humaine, pour que les téléspectateurs s'identifient à cette famille ?
Oui, absolument. Moi, ce que je cherchais, c'était éviter tout particularisme. Donc, aussi bien que ce soit religieux, que ce soit l'appartenance politique, est-ce qu'ils sont pour le régime, est-ce qu'ils sont contre le régime ? Est-ce que les agresseurs qui surgissent sont, eux, avec le régime ou contre le régime ? J'en sais rien. Et donc, moi, pour moi, c'était important parce que je ne voulais, dans ce cas-là, ne pas m'aliéner une partie de mon audience qui aurait pris fait et cause pour une partie contre l'autre et donc qui se serait pas retrouvée, si vous voulez, dans mon propos. Je ne voulais pas non plus, d'un point de vue de la religion, d'un point de vue de la manière dont ces gens vivent, c'est plutôt une famille qui vit de manière assez libérale, je ne voulais pas qu'on puisse, nous, audience occidentale, se placer à la distance. Et je voulais qu'au contraire, on soit dans un rapport le plus immédiat possible avec cette famille. Et donc, ils vivent dans un appartement qui pourrait être le nôtre, ils vivent d'une façon qui pourrait être la nôtre, ce qui est tout à fait, d'ailleurs, authentique et par rapport à la situation en Syrie. Et donc, ça, c'était important, en effet, de gommer tous ces petits exotismes qui auraient pu nous placer à distance raisonnable, on va dire.
Le personnage principal, cette mère de famille Courage, qui est d'origine palestinienne, ne veut pas quitter sa maison chez elle. Et c'est une façon de dire également qu'on ne choisit pas l'exil de façon volontaire. On y est vraiment contraint.
Ah oui, ma conclusion, elle est là, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on reste aussi longtemps que possible parce que c'est notre vie, c'est aussi notre moyen de subsistance. La maison, c'est pas seulement du confort, c'est un refuge. C'est aussi là où on a son travail, donc on peut peut-être pas aller travailler pour le moment, les enfants peuvent pas aller à l'école, mais on attend qu'une seule chose, c'est que la situation s'apaise pour que la vie puisse reprendre son cours normalement. Et je pense aussi pour cette raison-là que ces gens se retrouvent piégés, parce que s'ils avaient eu le courage de s'éloigner plus vite, ils seraient à l'abri peut-être. Mais alors par contre, je pense que nous nous faisons une idée assez fausse de ce que peut être un réfugié, parce que nous les voyons arriver chez nous. Et on a l'impression qu'ils ont quitté leur maison et tout de suite ils sont là. Alors qu'en réalité, ça se passe en étapes progressives. D'abord, on s'éloigne de sa maison pour aller, disons, à la campagne, dans la famille. Et donc, c'est un premier pas. Et puis, on est repoussé un peu plus loin. Et puis, on est repoussé encore plus loin. Parce qu'il y a des conditions économiques qui sont difficiles, parce qu'il y a des conditions humanitaires qui ne sont pas tenables. Et puis, au bout du compte, ils finissent par être poussés sur les routes et arriver chez nous.
Il y a cette scène terrible où la mère de famille choisit, ou du moins opte pour ne pas voler au secours de sa voisine qui fait l'objet d'une agression sexuelle pour protéger sa famille. Est-ce qu'il faut y voir une espèce de métaphore du fait que justement la communauté internationale a tendance à ne pas vraiment intervenir auprès des gens en situation difficile parce qu'on veut protéger notre mode de vie, notre situation économique et j'en passe?
Oui, alors je pense en effet qu'on peut jouer avec cette idée de la métaphore. En tout cas, je l'avais fait sans le vouloir. Si vous voulez, moi, ce que je trouve différent entre nos nations, les États qui nous représentent et nous-mêmes, individus, c'est que je pense que quand on regarde cette femme qui est placée dans une situation impossible où soit elle continue à protéger ses enfants aux dépens de cette jeune femme qui est agressée, soit elle vole à son secours, mais peut-être que c'est toute la famille qui va en subir les conséquences. Moi, je serais incapable de porter un jugement négatif sur cette femme. Je pense qu'au contraire, elle, évidemment, je pense qu'elle restera toute sa vie avec une souffrance et une douleur qui seront à jamais à vif. Mais je ne me permettrai jamais de porter un jugement sur son action. Par contre, en ce qui concerne nos États, qui ne sont pas des gens, mais qui sont des outils avec lesquels on doit travailler, je pense que le fait de rester indifférent ou de rester à distance pour des questions qui sont la plupart du temps guidées par des contingences qui sont d'une stratégie très, très cynique, ça fait mal. Et ça, je pense que ça, c'est pas pardonnable. Je pense que si on était intervenu tout de suite en Syrie, comme on l'a fait en Égypte, par exemple, avec le résultat qu'on connaît en Égypte, qui n'est pas celui que les gens là-bas, ni les démocrates en général, auraient espéré, mais l'apaisement de la situation, elle est là. Donc après, maintenant, en Égypte, ils sont de retour avec un tyran, je pense, mais voilà. En ce qui concerne la Syrie, je pense qu'il y avait moyen d'intervenir. Il fallait pour cela, évidemment, qu'il y ait une entente cordiale entre des parties qui n'ont pas l'habitude de s'entendre et qui ne s'entendent en réalité sur pas grand-chose. Je pense aussi que cette situation s'est dégradée d'une telle manière que désormais, c'est absolument impossible d'envisager comment on va pouvoir s'en sortir. Enfin, comment on va pouvoir arrêter cette effusion de sang, en réalité.
Le film est porté par deux actrices formidables, soit dit en passant, d'origine palestinienne et libanaise. Vous avez tourné le film au Liban, pas loin de la Syrie. Pourquoi ces choix ?
Alors d'une part parce que pour moi qui ne suis pas syrien, j'avais une terreur profonde de ne pas avoir l'authenticité nécessaire. J'aurais jamais osé, si vous voulez, installer mon tournage dans un appartement à Paris ou à Bruxelles avec tout ce que ça pouvait comporter comme fabrication, si vous voulez. Donc ça, pour moi, c'était pas possible. L'autre raison qui est plus importante encore, c'est que je voulais avoir accès à des Syriens, que je voulais que ces gens participent au film, a priori en étant à l'écran, Et donc, je voulais avoir des acteurs syriens ou des jeunes gens, puisqu'en fait, les enfants sont quand même tous des nouveaux venus dans le métier. Et donc, oui, ils sont tous syriens. Ils sont tous réfugiés, sauf le grand-père, qui vit à Tartous. Tout ça, c'était important. Je pense que c'était important aussi d'avoir leur soutien par induction dans le film.
Ce film fait écho à un autre film que vous avez fait précédemment sur le Rwanda, Le jour où Dieu est parti en voyage, qui est porté également par une femme, tout comme une famille syrienne. Pourquoi ?
Une chose qui me paraît importante, c'est que dans les conflits modernes, depuis la Deuxième Guerre mondiale, me semble-t-il, les adversaires ne se battent plus sur un champ de bataille, mais ils se battent aux dépens de la population civile. C'est-à-dire que des deux côtés, on frappe sur les civils et on essaye de faire plier l'adversaire en détruisant les familles, les femmes en particulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi cette situation du viol systématique qui est conçu comme une arme de guerre, qui évidemment est aussi un élément qui permet de salir, de détruire la femme censée être défendue par un combattant qui, du coup, à partir du moment où cette femme est salie, où sa réputation est salie, la volonté du défenseur n'est plus la même. Bref, moi, ce que je pense, c'est que les populations civiles sont devenues des cibles à part entière.
Il y a une scène d'agression sexuelle que vous avez choisi de montrer sans trop l'éluder. Il est beaucoup plus réaliste qu'on aurait pu le faire. Est-ce que c'était un choix volontaire pour mettre le spectateur en face d'une réalité de la guerre ?
Ah oui, parce que je pense que dans la plupart des films, quand on se retrouve confronté à une situation de viol, c'est plutôt salutaire de faire l'impasse, de faire une ellipse entre le tout début de l'agression et sa conclusion. Et ici, pour moi, il était absolument capital d'y faire face et de nous confronter, nous, audience, à cet acte, parce que ma préoccupation était celle de l'utilisation du viol systématique comme arme de guerre. Et donc, je ne voulais pas qu'on puisse quelque part rester dans un confort relatif face à une situation comme celle-là. Cela dit, ce n'est pas des choses faciles à faire, ce sont des choses très désagréables même à faire, pour tous, pour l'actrice en premier, mais pour tout le monde impliqué. Et donc, pour l'audience, ce n'est pas facile non plus. Je pense malgré tout qu'on l'a fait avec dignité, en respectant cette femme, en respectant même ses agresseurs. Quelque part, il n'y a pas de violence gratuite, si vous voulez. Elle est effective, mais elle n'est pas gratuite. Maintenant, ce dont je me rends compte, c'est qu'en réalité, quand on est avec les agresseurs et cette femme qui se fait taper dessus et violer, on est face à quelque chose qui est très physique et qu'on peut prendre d'une certaine manière en tant qu'audience, parce que quelque part, on a quand même l'habitude de la violence. Je trouve que ce qui est plus dur, en réalité, ce qui est plus lourd émotionnellement, c'est quand on passe dans la cuisine et qu'on n'a plus les actes à l'image, mais qu'on a les visages de ceux qui se sont réfugiés dans la cuisine et qui sont dans le désarroi le plus total. Et je pense que c'est à ce moment-là que c'est le plus dur pour nous, audience, c'est d'entendre ce qui se passe de l'autre côté et de voir la manière dont ceux qui sont cachés sont totalement désemparés et incapables d'intervenir.
Comment le film a-t-il été accueilli par les spectateurs qui l'ont vu ?
Bah écoutez, en général, je dirais presque à 99%, on a des retours extraordinairement enthousiastes. Tout le monde qui voit ce film en est touché, ému. C'est un film qui reste en soi et que les gens ont le désir de transmettre. Donc je sais que la plupart, je vous dis l'extrême majorité des gens qui m'ont parlé du film après l'avoir vu m'ont dit combien ils voulaient pouvoir en parler, le montrer à leurs amis, parce qu'ils considèrent que le film est important.
Voilà, et c'est avec le réalisateur belge Philippe Vanleu, auteur du film Une famille syrienne, qui répondait aux questions de Karim Djinko, que se referme Escale, un magazine d'ONU Info présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi les journaux quotidiens d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.